Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, on va au cinéma. Le jour à jour résiste au pire, il grignote. Mon CES cesse le 28 novembre. Présent sans épaisseur et plein, la vie continue. On se dégage, l'œil passe par Toulouse, AZF, on s'éloigne. L'image m'est toujours pas comprise, simplement couverte par d'autres. L'emballé d'essuie-glace, asthme, histoire, 20 heures. Voilà, c'était un poème de Antoine Emmaz. Antoine Emmaz qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il y a là une espèce d'hémorragie dans la poésie française, après Franck Venaille, après Yves Broussard, après Jacques Lovicki, voilà que Antoine Emmaz nous a quittés aussi. Je tenais à lire ce poème où il parle d'AZF et de Toulouse. C'est un poème qu'il a écrit le 24 septembre 2001 et qui a été repris dans un recueil, un gros recueil, paru chez Tarabuste en 2014, je crois, et qui a pour titre « De peu, Antoine Emmaz », encore un texte de Antoine Emmaz. Nous ferons bien sûr une émission hommage exclusivement consacrée à Antoine Emmaz. Ça va m'être pénible de devoir le barrer de ma liste des destinataires. C'était un poète vigilant qui était toujours à l'écoute, d'une discrétion rare chez les poètes de cette envergure. Et nous avions l'intention de faire une émission ensemble. Et puis, la maladie a été plus forte que tout ça. Voir. À cette heure, les yeux sont fermés dans leur selle, paupières volées, ombres prises comme pour en finir avec le jour, Algérie. De famille, armes blanches, 13 personnes comme trous dans le jour bleu, à n'y rien comprendre, dans le veau, l'eau dehors et fioul, prestige sur plage, il n'y a plus Dieu. Paupières finies, déjà on est dans le demain, affaire est pas facile. L'emploi étroit du temps normal. Ça s'écoule un peu, on reste là. Les yeux tombent, on reste là. Dedans tournent les 13 morts sans nom, autant que pour les 43 du convoi dans les Aurès. Ça ne veut rien dire, ça dure. On peut mettre des mots au bout, c'est buter sur ces... Antoine Emmaz. Longtemps, face aux carreaux de faïence blanc et deux torchons qui pendent, longtemps se défaire, laisser venir la nuit dedans, silence, jusqu'à fine poussière légère, grain, brin, rien, en suspens près de la lampe. On peut tousser la journée, la cracher dans l'évier, maintenant. Ce qui n'a pas été dit est déblayé, comme sorti la poubelle du jour. Voilà, on a donc un aspect de cette poésie, ce génie d'Antoine Emmaz, ce génie poétique, avec une économie toujours de mots, d'adjectifs. Il va à l'essentiel, c'est raclé jusqu'à l'os, il racle la langue vraiment jusqu'à l'os, il n'y a rien d'inutile. Et dans ce genre-là, en même temps, c'est une poésie du quotidien, une poésie qui parle à tout le monde. Et dans ce genre-là, je crois qu'Antoine Emmaz me semble n'avoir jamais été égalé. Reste juste la nuit, la lampe, et puis un petit tas de miettes comme des mots au pied du mur. Faïence, carreaux d'hôpital ou table pour les morts. Paillasse levée, lavée, pas encore. Lit froid, plat. On est debout en face, il est tard. En bas, quelques grains de fourmis mortes à balayer demain. Et puis, trois moineaux dans la sarriette morte, on les voit à peine, gris dans le gris. Aucune fourmi, tout se fait rare. Le froid tranche dans le vif. Jardin repris une fois de plus sur le fait au milieu du jour froid. Feuille à feuille tombe, la glycine dans la lumière raide. Le mur gèle blanc. Plus loin, les feuilles vernies du camélia. Voilà, vous voyez une économie vraiment de mots. Peu d'adjectifs et une intense émotion qui viennent justement de cette extraordinaire simplicité, mais de ce coup d'œil extravagant qu'il a du quotidien, où il arrive à en prendre la quintessence et la restituer donc dans sa langue, c'est-à-dire dans le poème, et nous inclure, nous, les lecteurs, c'est-à-dire l'humanité, dans son poème. Rentrer. La pluie grise, moite, orage, devant, et puis plus rien, comme si ça s'effondrait dedans, laissé comme du sol nu, raviné, battu, peu aglané dans cette fatigue. État sans poids, attente, et la tête cherche une prise pour la main. Du sable rapporté sous les doigts, la mer maintenant, son bruit, loin de ressacs et d'écume, dans un entre-deux d'être un vague, pluie sans sel, glycine dans l'eau trempée, fin de l'orage, tous ces gouttes. Alors la rentrée, ça peut être aussi la rentrée des classes, hein, puisque c'était un enseignant, Antoine Emmaüs. On est revenu, pourquoi ? Reprendre dans l'usure, de reprendre pourquoi ? Le corps, vieux, à chaque fois plus. Les mots tiennent mieux que la main, faible peut-être à cause de l'eau, maintenant molle dehors. Tout ça n'a rien à voir. Irak, Darfour, Olympie en vrac, Sarkozy, Hump, Bercy, cancer, horaire, nouvelle grille et rentrée littéraire, septembre, un haricot de mouton. Quand même l'usure dessous et toujours plus qui pèse, le temps compté, la mère, l'enfance qui revient sans sourire, dans le temps gris, le bruit du puisard. Une poésie nostalgique, même on peut dire une certaine tristesse devant le quotidien, mais une telle lucidité et surtout une telle vérité dans l'énoncé de chacun de ces poèmes. Bloc, une soupe d'air. Un bruit brasse l'après-midi coincé entre les murs qui chauffent. Aucun espoir d'orage, juste du bleu et le pilon de lumière sur le jardin. Une bière descend jusqu'aux plus fines nervures. Elle parcourt le corps, remet en route de peine la vieille machine à souffle et image. On est devant un éboulis. On ne voit pas ce qui s'est écroulé. Sûrement pas des rêves. Cela ne laisserait pas ce tas de gravats. Comme des statues pilées dans les blancs gris, on ne voit pas quoi, qui, du chiricot démoli, en tas, devant, dedans. Pas d'angoisse, juste, qu'est-ce que c'est que ce... Rien ne remue plus, une lumière mentale égale sur un rebut d'image. Pas sûr, un extrait de Pas sûr. Beaucoup de ratages et on n'efface rien. On surcharge, on recouvre. Aucun glacis. Ici, le gris final, c'est juste la couleur en bout de course après le travail, quand tout s'est arrêté de bouger. Voilà Antoine Masse, qui lui aussi s'est arrêté de bouger. Vous avez vu cette poésie économe, mais cette poésie qui nous transperce par cette lucidité absolue de la contemplation, parce que bon, c'est un contemplatif, mais la contemplation de la vie quotidienne, du moment qui passe, de l'ennui qui peut arriver, ou de la routine qui s'empare de nous, du corps, de la société aussi. Antoine Masse, nous reviendrons sur cet immense, immense poète. Et puis aujourd'hui, je voudrais d'abord vous signaler, la parution de 3 nouveaux numéros d'Encre Vive. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le numéro 485, c'est Jacques Lovicki, c'est Michel Cosem qui a eu cette excellente idée de reprendre le recueil dont j'avais parlé ici pour l'émission qui a été consacrée à Jacques Lovicki, une des émissions, je crois qu'on en a parlé 2 semaines. Jacques Lovicki, Au revoir et merci. C'est ce que j'avais choisi pour, évidemment, c'était de circonstance, lorsque Jacques Lovicki nous a quittés. Eh bien, Michel Cosem l'a réédité. Donc, vous pouvez, maintenant, il est à la disposition de tout le monde, ce recueil dont j'ai parlé ici, Radio Occitanie, Au revoir et merci, qui avait été publié en mars par Encre Vive, donc en mars 2012, et qui est repris donc en janvier 2019, qui constitue le numéro 485. Le recueil vous coûtera 6,10 €. C'est à commander à Michel Cosem, 2 Allée des Allobroges, 31 770, à Colomiers. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site de Encre Vive. Donc Jacques Lovicki, Au revoir et merci. Et puis le 486e numéro d'Encre Vive est consacré à Alain Lacouchy. Alors là, c'est un grand, grand bonheur de voir Alain Lacouchy. Alain Lacouchy qui travaille avec Jean-Pierre Thuya, cette merveilleuse revue Friche, et qui publie là Texte et encre sous le titre de Une pierre sans personne. Alors c'est merveilleusement mis en page, puisque c'est Alain Lacouchy lui-même donc qui fait l'illustration et qui a fait la mise en page. Je crois que ce recueil vaut à lui-même et une émission entière, donc nous consacrerons cette émission à Alain Lacouchy, et en particulier à la lecture de ce recueil, Une pierre sans personne, mais je tenais déjà à le signaler, puisque voilà ce que l'on dit à propos de l'écriture d'Alain Lacouchy. Joseph Rouffanche, prime à l'armée, écrivait à propos de l'écriture d'Alain Lacouchy, je le cite, 2 points, férocité, désespoir, révolte, souffrance indicible, torturante, qui persécute, violente, cette syntaxe géniale, au cœur d'un désastre humain couramment enduré, exacerbé, avec un écho, cette affirmation de Jean Joubert qui nous a quittés aussi, et qui a eu le prix Renaudot et le prix Mallarmé. Il qualifiait, Jean Joubert, ainsi la poésie d'Alain Lacouchy. Je le cite. « Poésie ouverte, poésie vivante, entre tragique et ferveur, se recueille et dans cette tonalité. » Derniers ouvrages parus, « Les rapaces », avec une préface de Joseph Rouffanche, illustration de Noël Millès, chez Haute Écriture. « Dérive et déroute » chez L'Harmattan, « Écorché vif écrit », préfacé par Jean Joubert, « De temps à autre, incertain, butiner la vie », préfacé par Jean-Claude Martin, « Et tous les hommes s'appellent Icare », ces quatre recueils chez l'éditeur Élie Tinter. Et « L'œil trop bleu du poisson mort » a été édité chez le Moulin du Got. C'est le plus récent, à part, bien entendu, le dernier, « Une pierre sans personne », aux éditions Encre Vive, qui constitue le numéro 486 d'Encre Vive. Alors l'auteur, alors ça c'est titre d'un article dans une revue littéraire, « Artiste humble et pluriel, homme révolté ». Je crois que vraiment, là c'est bien dit, c'est un raccourci, un résumé, mais qui est suffisamment éloquent. Pour être discret, alors oui, voilà, peut-être un peu trop discret, du Limousin, ça, quand on est trop discret, ça peut être presque un défaut. Alain Lacouchy est l'auteur d'une quarantaine de recueils de poésie et de nouvelles. Ses textes ont paru dans diverses anthologies. Il collabore aussi à de nombreuses revues, et tout particulièrement à la revue Friche, dont je parlais tout à l'heure, animée par Jean-Pierre Thuillat. C'est un plasticien, illustrateur. Ses encres ont orné ses propres écrits et les œuvres d'autres écrivains. Elles ont aussi fait l'objet d'expositions, au même titre que ses photographies. A signaler d'autre part qu'il a dirigé pendant quelques années une troupe de théâtre amateur. Alain Lacouchy, une pierre sans personne. Je vous donne juste un extrait puisque nous reviendrons longuement sur ce recueil. 1. Une pierre sans personne. Les passants sont lacunaires, sans vergogne, et les prisonniers. La ligne rouge les étrangle. Ils marchent sur place, rien ne se passe. 2. Un jour, la nuit s'enfuira dans les feuilles, et l'ennui sera obsédant. J'ai hâte que les jours se terminent. 3. Des espaces ont déjà vécu mon temps. Ici, je suis en rien d'infini. Je ne suis pas en avance sur mon innocence. Je suis ébouriffé de longues violences en chaleur et de cris à la mort plantés sur mes peurs. Je voudrais habiter loin de mes désirs pour ne pas encore détester la vie. 4. Les oiseaux morts font la nuit et la panique m'effiloche. Des ombres s'égouttent noires le soir en enfer. Fatoum, aux doigts impatients, mes gorges en riant. Ivresse. 5. Je m'accouple à des mondaines en dentelle, garnies de gros boyaux. Leur minuscule chagrin assèche désespoir. Je hais les souvenirs. 6. S'il existait une âme, ce serait la poésie, le souffle et les désirs de nuit, où des naufrageurs aux yeux bleus souffrent leur vie. impasse et manque. À bas le réel, achevez les poètes, les orpailleurs à la main si craintive. Alain Lacouchy, une pierre sans personne, ça vous coûtera 6,10 € à commander encre vive, dont j'ai donné les coordonnées tout à l'heure. Et puis, Jean-Michel Bongiro, dont nous avons parlé il y a peu de temps et dont il faut là aussi que nous consacrions vraiment une émission entière à Jean-Michel Bongiro, qui publie donc à Encre Vive, ça constitue le 487e numéro d'Encre Vive, le coin du tableau. Alors, certainement pas un poète de canapé, comme il a raison Jean-Michel Bongiro, c'est Jean-Louis Bernard qui parle. Et combien ces mots sont là, debout, percutants, et tendres, grinçants et espérants. Anarchiste humaniste, espace rare, mais si essentiel. Impitoyable envers puissants et arrivistes. Il nous offre une salutaire piqûre de rappel. La poésie est aussi résistance, dangereuse pour l'ordre établi, redonnant goût à la réflexion, à l'émancipation, au désir. Bouffée d'oxygène dans un monde de plus en plus en proie aux passions tristes. Utopie, en grec, signifie non-lieu. Jean-Michel Bongiro n'est donc d'aucun lieu, mais ô combien de notre temps. Alors Jean-Michel Bongiro, il est né en 1955. Et j'ajoute qu'il n'a jamais qu'un an de moins qu'avait Antoine Emas. Et il vit dans le Jura. Il a publié la revue Parterre Verbal de 1992 à 2001, puis de juin 2008 à décembre 2012, le trimestriel, le bimestriel, pardon, Page insulaire, dont nous avons toujours rendu compte ici, Radio Occitanie. Et en 2013, il a fait paraître le journal Fermentation, publication ouverte à l'actualité et à la réflexion. Il a publié une quinzaine d'ouvrages chez différents éditeurs, des poèmes, des articles dans différents revues ou magazines, et puis un dernier roman également dont nous avons ici parlé, dont nous reparlerons. Alors, il publie donc chez Encre Vive, donc le numéro vous coûte 6,10 €, à commander toujours chez Michel Cosset, un extrait de Jean-Michel Bongiro, dont nous reviendrons bien sûr sur cette publication. C'est juste pour le signaler. Je n'ai jamais su donner à mes poèmes cet envolé lyrique, planant de la rosée du matin au coucher du soleil et flirtant quelques secondes avec l'aile du papillon. Je ne culmine pas dans l'indicible nuée des idées, ou encore moins, je ne m'abandonne au déroulé stupéfiant de mon esprit, trop logique pour se laisser corrompre par des poudres d'un rose éléphant. Je suis un manœuvre, une brique anarchiste, un lopin de terre sociale, une amphore politique, mais certainement pas un poète de canapé. Que peut-on craindre de soi-même ? Faut être naïf pour considérer la loyauté comme un gage de fidélité. On n'est jamais que son propre alibi. On n'est jamais loyal qu'envers ce qui nous conforte ou réconforte. Les politiciens le savent, les gangs le savent, les citoyens le savent. La confiance est une affaire de monnaie courante. Au-dessous d'un certain seuil, plus rien ne compte que le tas d'or entassé chez soi. Écrire et être sont-ils fusionnels ? J'ai tant de choses. Un âne, un chien, un moustique qui tourne autour de ma cervelle et qui finit par planter son dard dans ma masse graisseuse. Des philosophes sur les chemins, j'en ai croisé. Des sages, des amateurs, des créateurs, et je me demande encore vers quel concept ils se rendaient. La force de dire, vaut-elle son pesant de vertu ou de sagesse? La parole sacrée est-elle ce qui vient avant la croyance? Au fond, être, n'est-ce pas écrire? Jean-Michel Bongiro, le coin du tableau, qui ne fait qu'affirmer que la vie, c'est toujours la création. Bon, nous reviendrons donc sur ces recueils. Et puis, je voudrais quand même vous signaler, je l'ai déjà fait, mais peut-être pas suffisamment, là aussi, il faudra bien y revenir, Anne-Marie Bernade, qui publie à l'Harmattan, dans cette collection, Poète des cinq continents, L'encre des mots. L'encre des mots. Alors Gilles Lade avait fait cette préface donc à ce recueil, un avant-propos, Le poids de la poésie. Jusqu'où peut-on aller avec les mots? Ils nous entraînent dans des profondeurs insoupçonnées, dans des abîmes où l'on s'arrête de respirer car l'air se raréfie. Comment lever cette ancre, si ce n'est travailler humblement dans ces dédales enfouis jusqu'à tirer hors l'eau cet enchevêtrement à la lumière? Dit Anne-Marie Bernade. Et Gilles Delade disait, laissons-nous entraîner par ces mémoires intérieures, fruits de la patience, de l'autre vie, de l'invisible et d'une dévotion à l'absolu. L'esprit qui est à l'œuvre ici, c'est celui d'un pacte initial à préserver, attaché à traduire les énigmes et les évidences de la condition humaine. Un esprit de vérité qui ne saurait déboucher que sur le dernier mot ou sur la transparence devant l'insondable. Là, il cite bien sûr des vers de Anne-Marie Bernade. Anne-Marie Bernade, elle est originaire de Decazeville, elle habite Rodez, et elle est membre de la Société des Lettres de l'Aveyron. Elle a d'ailleurs fait partie du bureau des écrivains du Rouergue, et elle a publié de nombreux recueils, et elle participe à de multiples revues de poésie. Pensez l'avoir lu d'ailleurs à l'époque aussi dans la revue d'Henri Hortebise Multiple. Et elle a reçu le prix Voronka en 1973. Un extrait. Comment survivre à la fenaison? Comment construire ses limites? Emporter le regard d'une faim égarée? Sortir comme un voleur et reprendre son souffle après le geste qui respire? La croix, souffrance de la peur, et vivre le silence, recevoir dans ses bras une autre vie. Les yeux, menacés de s'éteindre, ouvrent la vague de l'esprit qui signe sur le sable le sang des mots. Ne pas laisser mourir ces coquillages inertes, gardiens de l'infini. Ne pas se taire devant le rêve déchiré de ceux qui sont partis. L'œil parfois se réjouit sur des toiles austères, surprend l'immense, comme si le fond devenait lumière sans parole, d'un puits qui s'abandonne, s'ajoute à la passion, quand le jour se décline en larmes amères. L'essentiel se découvre avec la peur. Le craquement des cils. Écoute, le silence est fait de paroles en l'intérieur de soi. L'aube venue des profondeurs entoure d'esprit la lumière. Les mots de novembre annoncent l'espace, hauteur achevée des parfums, odeur émaillée de la vie avec, dans la bouche matinale, le goût d'une voix. Écoute, le chuchotement du premier mot se tait à la source, se désaltère dans l'ombre, comble le vide. Dans ce grenier inépuisable, le cri pétrifie l'essentiel. Anne-Marie Bernad, L'encre des mots, aux éditions L'Harmattan, ça vous coûtera 17,50 €. Et puis, j'ai reçu également, entre autres, mais ceci, je tiens absolument à le signaler, là aussi, il va falloir peut-être faire une émission. Jacques Canu. Ah, oh, Jacques Canu. Jacques Canu qui persiste. Il persiste. Et il nous offre, pour solde de tout compte étant écrit T-O-U-S, plus loin C-O-N-T-E-S. Donc avec ce jeu de mots, pour solde de tout compte, et il nous compte là, un peu, eh bien, dans ce recueil qu'il appelait Résurgence. Il est évidemment à l'âge des résurgences, avec une magnifique, magnifique illustration en couverture de l'adorable Claudine Goux. Claudine Goux. J'avoue être toujours sous l'émerveillement des illustrations, des dessins, de cette fabuleuse arrogance de couleurs donc de Claudine Goux. Alors, il est à l'âge, Jacques Canu, hein, d'un octogénaire. Il est à l'âge un peu, oui, de faire ce solde de tout compte et d'avoir cette résurgence de ce passé pesant, extraordinaire qu'il a derrière lui. Nostalgie. Musique douce des âmes angoissées. Sur le sillon d'un disque pieusement conservé, Milongas et Tango m'invite à parcourir la Pampa pour un voyage que je n'eus le pouvoir d'accomplir. Alors là, effectivement, il faut expliquer que Jacques Canu a écrit un espagnol qu'il a sillonné l'Espagne et qu'il a d'ailleurs été publié en Amérique du Sud. Alors apparemment, ce texte dit qu'il aurait bien aimé aller en Argentine et qu'il n'a pas pu y aller, lui qui aime tant les milongas et les tangos. Se laisser submerger par la troublante lumière d'instants, de fées, de silhouettes d'êtres disparus, des pics d'émotions, des gouffres d'illusions perdus. Accompagne les voix de la mémoire. Alors là, il joue sur le jeu de mots, les voix, avec V-O-I-E-S et les voix V-O-I-X. Donc il y a à la fois les voix, les chemins qui conduisent à la mémoire et aussi ce qu'elle dit, la voix de la mémoire. Des gens trop discrets pour qu'on les remarque, d'autres si dérangeants pour qu'on les oublie. C'est bien vrai ça. C'est assez cruel, mais c'est vrai. Des passions que les absences raniment, il nous est lui déclarer « Vous êtes belle ». Tout près d'elle, avouerait-il « Je vous aime » ou n'aurait-il timidement, égoïstement, rien d'autre à proposer que le son monocorde de sa voix ? Couple, s'éloigner dans leurs rêves et illusions. Existe-t-il vraiment l'un pour l'autre? Un certain respect les rapproche, prolonge, entretient leur union morose. Ont-ils un problème urgent à résoudre? Leur voix submerge les longs et jaloux silences dans lesquels ils replongent simultanément, réciproquement. Sauront-ils passer le restant de leurs jours ensemble? Vieillir, se mettre en quarantaine de toute société, son âge, source de récrimination, de souffrance, remonte le sens unique du passé. Dans la perspective du soir qui tombe, elle avance, telle une ombre. Le rhumatisme, un instant oublié, ressurgit. la déchire. En quelle période d'une existence la récompense de l'apaisement? Et c'est une interrogation, hein? La retraite file par le sablier des jours. N'avoir rien d'autre à accomplir que des tâches résiduelles. Monsieur brosse balai. La grisaille du quotidien l'accable. Est-on prédisposé à médire de quiconque? Parfois, frappé de clairvoyance, je me rends compte que je dérange, que je blesse. Ben, nul n'est parfait. Mûrirai-je le don, la discrétion de diffuser telle lumière qui ennoblirait mes paroles? Écrit, étudié, évalué. Un agencement d'impressions, sentiments, réflexions pour appeler les fruits d'une délectable création? Ce matelas de notes critiques. Relire celle-ci pour être confronté à moi-même, pour découvrir ce qui a pu plaire à d'éminents lecteurs. Aurais-je le bonheur de me surprendre? M'a-t-on éloigné? Accordé l'intérêt que je mérite? Les succès passés entretiennent-ils la renommée? L'oubli? La rançon de la gloire? Qui pour savourer soleil et vie? Ilka? La petite ratière craintive, mais si sensible, étonnamment compatissante à nos peines, nos douleurs et nos joies. En bordure de cette paisible route de campagne, Mickey, tout jeune membre d'une quintette de petits félins errants, tu m'accueilles avec tant de chaleur en ta fourrure d'or et d'hermine. Tu te dresses contre mes jambes, lumineux, ronronnant avec ferveur. Confiant, tu sollicites, imposes ces caresses que tu m'accordes ardemment, avec l'espoir que je puisse te les prodiguer à mon tour en tout lieu. À tout moment d'une journée, s'il te plaît, emmène-moi. Des êtres dont l'absence nous est si profondément cruelle, qu'apercevant-elles autres qui leur ressemblent, le cœur se serre discrètement, mais très sincèrement. Que reste-t-il en commun après tant de décennies? Un passé qui devient de plus en plus nébuleux, une demeure cernée de solitude, un chien et quatre chats fidèles, témoins émouvants de nos complices vieillesse. Voilà, Résurgence de Jacques Canu. Alors, vous pouvez commander ce recueil ainsi que un très beau livre qui s'appelle Catissimo, puisque c'est un amoureux des chats. Jacques Canu, et comme on le comprend, Jacques Canu, Catissimo, avec des photographies de Lydie Arnaud. Vous pouvez commander ses ouvrages chez lui-même, Jacques Canu, 19 allée Lagarassic, Lagarassic, 32 000 à Auch. 19 allée Lagarassic, 32 000 à Auch, et ce sera bien sûr dans le compte rendu que nous ferons et qui sera sur notre site Les Poètes, le tout attaché et sans accent, point site, Les Poètes, je répète, point site. Attention, nous avons changé d'intitulé de site. Alors, son dernier, c'est Catissimo, vous savez, cet amoureux des chats. Il a écrit donc. C'est tellement, tellement agréable de lire Jacques Canu. En cette maison champêtre, sous la lumineuse vallée de la Baïse, pendant presque un quart de siècle, dit-il, j'eus le plaisir, de retrouver plusieurs fois l'an l'imprimeur favori de mes recueils, un ami venu passer quelques jours auprès de sa belle famille. Nos rencontres étaient illuminées par la toute noire Minouche, gardienne des lieux, caressante pour tous les visiteurs, amis de la maison. Lors de l'automne 2017, la vieille et incorruptible concierge disparut, laissant flotter en ce lieu le silence dans lequel, quelques années durant, elle perpétua la mémoire de ses maîtres. Une plongée dans un passé profondément marqué par la silhouette fière et fidèle, au regard d'imperturbable vigilance. Voilà. Je vais donc vous lire un extrait de Cathy Simon, de Jacques Canu. Je passe parfois par ce petit chef-lieu de canton du Gers, revoyant avec émotion, dans sa large avenue à droite, la clinique vétérinaire où je transportais plusieurs fois Minou, Mimine, Minette et la petite chienne Ulka pour des soins que je me serais reproché de ne pas leur avoir prodigués. Aujourd'hui, retrouvant le petit bâtiment, je mesure la fuite bouleversante du temps, de ces consultations inquiètes et bénies. L'image de ces petits compagnons dont certains ont disparu accompagne l'émotion qui m'envahit, m'étreint. Je n'oublierai jamais la première visite effectuée chez le vétérinaire de ce bourg voisin. En effet, je dus y transporter Minou, âgé d'un an à peine, blessé cruellement par un matou qui hantait la proche campagne. Ne disposant pas de la cage appropriée, j'avais installé mon chat dans un garde-manger, découvert sous le hangar dépendant de notre demeure. Dans la salle d'attente de la clinique vétérinaire, les 4 ou 5 personnes présentes se gaussèrent de cette cloche à fromage. Et dès qu'ils nous virent, Minou, indifférent à ces sarcasmes, coup d'œil étonné, aussi câlin et patient, malgré la douleur, que s'il avait été transporté dans la cage idéale, Minou demeurait impassible, assis, examinant le lieu, les objets, l'énorme berger allemand placé près de lui, dans une imperturbable dignité que toutes les personnes louèrent. À l'orée de la salle d'opération, Minou m'inspirait un supplément d'admiration, d'affection, qui me bouleverse encore quand j'évoque cette journée d'octobre 2003. Aujourd'hui, Minou, le patriarche, s'adresse à nous, modulant par des sons rauques un langage empli des émois de toute une longue vie de chat. Parfois, couché tout contre nos pieds alors qu'on ne s'y attend pas, si par malheur on le blesse sur les reins endoloris, après qu'il a poussé un cri sinistre, il s'échappe, mais s'arrête rapidement, espérant qu'on désire l'apaiser par quelques flatteries. Il ronronne en signe de satisfaction de pardon. Les reflets d'une vie dans le souvenir d'un petit félin auquel on s'efforça humainement de prodiguer les soins que son mal exigeait. La jeune chatte, Kiki, traîna ses monstrueuses tumeurs abdominales dans une innocence emplie de sagesse. Elle fut, quelques mois, la plus vive, la plus espiègle compagne de jeu de Mimine. Mais on ne sut jamais déterminer la nature de ce mal étrange et sournois qui nous l'arracha en 2 semaines. Mimine, notre vieille chatte, aurait-elle des angoisses? Elle miaule parfois lugubrement avec insistance, se souvenant peut-être encore de son enfance de petit félin abandonné dans une horde de chats errants au cours du torride été 2003. Cependant, si elle s'offre souvent les bienfaits du soleil d'automne, de printemps et d'hiver sur le toit du garage exposé au sud, elle passe des journées et nuits entières hors de la maison, de juin à début septembre, pour retrouver des sensations ancrées dans son corps
et sa mémoire de si jeune félin par cet inoubliable été. Mais un après-midi d'août 2018, alerté par les aboiements répétés de la ratière Ilka, je découvris près des rosiers du jardin notre vieille chatte étendue, inerte, l'œil droit, horriblement tuméfiée, quasiment éjectée de l'orbite. Sans attendre, je pris la petite blessée dans mes bras, me dirigeai vers le toit pour la transporter avec l'assistance de ma compagne à la clinique vétérinaire du proche chef-lieu de canton. Le jeune docteur de service qui nous accueillit en cette période de congé prit aussitôt conscience de la gravité de la blessure. Après avoir ausculté avec minutie et compétence, il déclara que l'œil atteint devait être énucléé pour assurer la guérison de Mimine, laquelle séjournerait une semaine à la clinique. À l'issue de cette efficace période de soins, nous avons ramené cette vieille compagne à notre demeure où elle finit rapidement de se rétablir et retrouva ses chères habitudes en dépit de son œil unique. Cependant, après cette délicate et récente intervention chirurgicale, à cause de son grand âge, de l'hiver qui s'approche avec les rigueurs qu'elle supporte de plus en plus douloureusement, notre Mimine est source de compassion, d'admiration. Voilà, Jacques Canu, je vous invite vraiment, si vous êtes comme moi amoureux des chats, je vous invite à vous procurer ce petit livre qui tient dans la main. C'est un petit format enveloppe. Hein. Jacques Canu, Catissimo, photographie de Lydie Arnaud. Alors, à commander toujours chez Jacques Canu, 19 Allée Lagarcic, 32 000 à Auch. Alors, je ne sais pas, il n'indique jamais, Jacques Canu, le prix de ses ouvrages. Je pense que ça doit être moins d'une dizaine d'euros. Je rappelle les titres, Résurgence et Catissimo, de Jacques Canu. Voilà. Si vous aimez les chats, vraiment, c'est à lire. C'est très émouvant et c'est tellement bien vu. Il n'y a qu'un poète aussi qui peut parler aussi bien des chats. Un poète ou un grand écrivain, comme l'a fait par exemple l'écrivaine Colette. Voilà, je voulais terminer, mais nous avons combien de temps? Donc, il faut s'arrêter, je pense. Voilà. Alors, je dis simplement que nous consacrerons très bientôt une émission à un livre bouleversant. Il s'agit du livre de Sylvaine Arabeau, Au fil du labyrinthe, suivi de Marine Résilience, paru aux éditions Raphaël de Surtis. Il s'agit là, j'écris Au fil du labyrinthe, dit Sylvaine Arabeau, à 26 ans, alors que je venais de perdre ma mère, j'ai retrouvé ces textes qui « dormaient » entre guillemets dans un tiroir. Après les avoir attentivement relus, il m'a semblé que peut-être ils méritaient une publication. Alors, il les a revus, corrigés, et cette publication, c'est le titre de l'ouvrage que je vous ai cité et que je vous invite à vous procurer. Et de toute façon, nous ferons une émission en entière sur ce livre absolument bouleversant. On voit que vraiment, très jeune, elle avait vraiment ce talent du poète authentique, hein, Sylvaine Arabeau. Et puis, ça m'a fait penser tout à fait à Janine Modlinger quand elle a écrit aussi sur la mort de sa mère. Ce livre, Beauté du presque rien. Sylvaine Arabeau, donc, Au fil du labyrinthe, suivi de Marine Résilience, aux éditions Raphaël de Surtis. Ça vous coûtera 15 € et nous en reparlerons très prochainement d'une façon beaucoup plus exhaustive, bien sûr. Voilà, le temps nous a rattrapés. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.